L'approche des législatives m'oblige à réfléchir sur la notion de droit. Qu'est-ce que le droit dans notre société de plus en plus procédurière? On l'avance partout. Est-il fondé sur un principe qui transcende la personne ou au contraire fonde-t-il la liberté de la personne devenue sa propre origine? Le droit positif est-il purement arbitraire, lié aux lois du pays, sans aucun lien de nécessité avec le droit naturel? Pour Jacques Maritain, le mot de dignité de la personne humaine ne signifie rien s'il ne signifie pas que de par la loi naturelle, la personne humaine a le droit d'être respectée et est sujet de droit, possède des droits. C'est parce que nous sommes engagés dans l'ordre universel, écrit-il, dans les lois et les régulations du cosmos et de l'immense famille des natures créées, et c'est parce qu'en même temps, nous avons là le privilège d'être des esprits, que nous possédons des droits en face des autres hommes et de toute l'assemblée des créatures. Comme toute créature n'agit que dans la vertu de son principe, qui est l'acte pur, comme toute autorité digne de ce nom, c'est-à-dire juste, n'oblige en conscience que dans la vertu du principe des êtres qui est la sagesse pure, de même, tout droit possédé par l'homme n'est possédé que dans la vertu du droit possédé par Dieu, qui est la justice pure, avoir l'ordre de sa sagesse dans les esprits respectés, obéis et aimés de toute intelligence. En face, une autre philosophie, toute contraire, a tenté de fonder les droits de la personne humaine sur la prétention que l'homme n'est soumis à aucune loi, sinon à celle de sa volonté et de sa liberté, et qu'il ne doit obéir qu'à lui-même, comme disait Jean-Jacques Rousseau, parce que toute mesure ou régulation provenant du monde de la nature, et en définitive de la sagesse créatrice, ferait périr à la fois son autonomie et sa dignité. Cette philosophie n'a pas fondé les droits de la personne humaine, parce qu'on ne fonde rien sur l'illusion, elle a compromis et dissipé ses droits, parce qu'elle a amené les hommes à les concevoir comme des droits proprement divins, donc infinis, échappant à toute mesure objective, refusant toute limitation imposée aux revendications du moi, et exprimant en définitive l'indépendance absolue du sujet humain et un soi-disant droit absolu attaché à tout ce qui en lui, du seul fait qu'il est en lui, de se déployer contre tout le reste des êtres. Maritain va donc articuler le droit naturel au droit positif et au droit des gens. Qu'est-ce que le droit naturel? Il concerne les droits et devoirs qui suivent du premier principe, faire le bien et éviter le mal. C'est pourquoi les préceptes de la loi non écrite sont de soi ou dans la nature des choses universelles et invariables. Le droit des gens ou la loi commune de la civilisation concerne, comme le droit naturel, les droits et les devoirs qui suivent du premier principe, d'une manière nécessaire, mais en supposant certaines conditions de fait, comme par exemple l'état de société civile ou les relations entre peuples. Le droit des gens est donc universel lui aussi, du moins pour autant que ces conditions de fait sont des données universelles de la vie civilisée. Qu'en est-il du droit positif ou ensemble des lois en vigueur dans une cité donnée? Eh bien, ce droit positif concerne aussi les droits et devoirs qui suivent du premier principe, mais d'une façon contingente, à raison des déterminations posées par la raison et la volonté de l'homme, établissant les lois ou donnant naissance aux coutumes d'une communauté particulière. C'est donc dans la vertu du droit naturel que le droit des gens et le droit positif ont force de loi et s'imposent à la conscience. Ils sont un prolongement ou une extension de la loi naturelle, car c'est la loi naturelle elle-même qui demande que ce qu'elle laisse elle-même indéterminé soit ultérieurement déterminé. Il y a ainsi un dynamisme qui pousse la loi non écrite à s'épanouir dans la loi humaine et à la rendre progressivement plus parfaite et plus juste dans le champ même de ses déterminations contingentes.